La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Camille. Des élections à travers le monde au cœur de l'agenda médiatique ce mercredi. On va commencer par un scrutin programmé pour 2020. C'est en Birmanie et on s'inquiète déjà pour d'éventuels débordements de violences ethniques et religieuses.
Oui, 2020, ce sera des élections législatives en Birmanie. Après ce qu'ont subi ces deux dernières années les musulmans Rohingyas dans ce pays, qui a été clairement qualifié, rappelons-le, de nettoyage ethnique par l'ONU, eh bien, c'est vrai qu'il y a fort à craindre que la campagne qui va bientôt débuter là-bas ne voie un déversement de propos haineux, d'incitation à la haine contre cette minorité, en particulier sur les réseaux sociaux. À tel point, nous explique ce matin The New Statesman, que ça alerte la société Facebook, ça l'oblige à battre sa coulpe publiquement. La firme californienne a en effet révélé hier les conclusions d'un rapport indépendant et accablant sur sa responsabilité dans la propagation d'appels à la haine et à la violence physique contre les Rohingyas ces deux dernières années. Sur Facebook, mais aussi sur les comptes Instagram, WhatsApp et Messenger, tous propriétés du groupe Facebook, les dirigeants politiques de Birmanie ont trouvé une plateforme ultra efficace pour répandre, diffuser les thèses qui ont conduit très concrètement à la mort de dizaines de milliers de personnes et à l'exode de centaines de milliers d'autres vers les pays voisins. Cette responsabilité des réseaux sociaux, elle avait déjà été pointée du doigt par l'ONU et par certains journaux comme le Guardian. Et d'ailleurs, depuis, Facebook a fait fermer au mois d'août 52 pages et les comptes de 19 responsables politiques birmans. Une centaine de personnes parlant la langue nationale birmane a aussi été embauchée pour faire le tri autant que possible parmi les messages publiés. Mais à lire The Verge ce matin, on comprend que la grande prise de conscience n'ira pas beaucoup plus loin. Facebook admet qu'il a merdé. C'est pas moi qui le dis, c'est The Verge en Birmanie, mais refuse d'en tirer les conséquences, titre donc le site d'info américain, évoquant le manque d'engagement ferme pris par la société pour éviter que de tels débordements ne se reproduisent à l'avenir en Birmanie en 2020 ou n'importe où ailleurs.
Un pays où l'on vote ce mercredi, c'est Madagascar, qui élit son prochain président. 36 candidats en lice, une atmosphère très pesante sur ce scrutin, Camille.
Il suffit pour s'en convaincre de lire le titre choisi par l'Express de Madagascar, élection, l'heure du jugement dernier. Avec 36 candidats, nous dit le quotidien, les électeurs malgaches pourraient avoir l'embarras du choix, mais cette pléthore de candidats embarrasse plutôt tous ceux qui n'ont pas été conquis par les gesticulations durant la propagande. Alors c'est vrai qu'on a connu plus enthousiaste comme vocabulaire, mais en croire l'éditorial de l'Express, c'est vrai que les débats d'idées et de programmes n'ont pas eu beaucoup de place dans cette campagne présidentielle malgache que, rappelons-le, 25 candidats sur 36 avaient appelé à reporter car les listes électorales, selon eux, sont truquées. Dans cette campagne qui a été menée donc malgré tout, nous dit le site d'info panafricain Face to Face Africa, tout se sera joué finalement autour de l'argent déversé par les trois principaux candidats à la magistrature suprême, des budgets de campagne extravagants et d'autant plus choquants dans un des pays les plus pauvres d'Afrique, à plus forte raison dans les régions du sud de Madagascar, ravagées par la sécheresse depuis deux années et où la population, qui n'a guère d'autres préoccupations quotidiennes que de trouver de quoi manger, a vu débarquer les candidats par hélicoptère pour déverser sur eux leurs promesses intenables, leur verroterie électorale et quelques billets pour les pousser à aller voter ce mercredi. Pourtant, des idées, des projets de société innovants pour Madagascar, il y en avait chez les petits candidats issus de la société civile. La chaîne Al Jazeera Zira, par exemple, dresse le portrait de l'une d'entre eux.
Fanisu Anaïf is running her presidential campaign from her headquarters in the capital Antananarivo.
Fanisu Anaïf, ancienne magistrate et conseillère aux questions de genre pour l'Union africaine, elle sait qu'elle n'a aucune chance de l'emporter aujourd'hui, faute d'argent pour rivaliser avec les trois ex-présidents, mais elle a tenu à se présenter tout de même pour montrer, dit-elle aux Malgaches, que la place des femmes et leur représentation doivent évoluer dans la société de la Grande Île. Sur les 36 candidats à départager aujourd'hui à Madagascar, seuls 5 sont des femmes.
Et puis on termine, Camille, avec un scrutin qui lui est largement médiatisé et qui est le sujet de cette matinée spéciale sur France Culture. Sont évidemment les élections à mi-mandat aux États-Unis et l'un des principaux enseignements de ce vote, c'est justement la victoire de nombreuses candidates féminines.
Et le New York Times a réalisé un petit medley de leurs propos ce soir.
We want our community back, we want our country back, and we want our state back.
Change came tonight.
Le changement est arrivé ce soir, déclare Jennifer Wexton, élue en Virginie. Elle fait partie de cette nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants, laquelle chambre de sa coloration politique va changer en intégrant une diversité beaucoup plus importante que jusque-là des femmes, donc, mais aussi beaucoup de nouveaux visages qui souvent brisent plusieurs barrières à la fois, celles du genre, mais aussi de la race ou de la religion. Elles sont listées par le réseau de radio publique NPR. Première musulmane élue, Rachida Tlaib dans le Michigan et Ilhan Omar dans le Minnesota. Plus jeune membre du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, élue à 29 ans à New York. Premières amérindiennes à entrer à la Chambre des représentants, c'est Charis Davids dans le Kansas et Deb Haaland au Nouveau-Mexique. Toutes, c'est vrai, sont démocrates et elles font l'histoire aujourd'hui, nous dit USA Today, qui rejoint le reste de la presse américaine pour parler de 2018 comme de l'année des femmes, couronnée par cette élection d'hier. Pour preuve, le Washington Post a même mis en place un compteur et un trombinoscope actualisé au fil des résultats des femmes qui ont été élues. Elles sont 111 en tout, Sénat, Chambre des représentants et poste de gouverneur compris, sur 277 qui étaient candidates. C'est un record historique à relativiser tout de même, on est encore très loin de la parité.